Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongée au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Lou et Justine de la Maison de l'Europe, Direct Limousin. Bonjour toutes les deux.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Ce ne serait pas une musique du groupe ABBA que l'on vient d'entendre ?
Et si Delphine, bingo j'ai envie de dire. C'est en fait l'un des vainqueurs, comme tu le sais sûrement, du grand concours de l'Eurovision. Sujet qu'on va donc aborder dans cette chronique. Et cette année, il aura lieu en mai 2026 à Vienne en Autriche.
Effectivement, ce concours de musique est prestigieux pour sa représentation européenne et sa diversité culturelle. Je vais alors vous laisser la parole pour nous renseigner à ce sujet.
Eh bien, merci Delphine. Et donc, avant tout, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Eurovision est un concours de chant annuel organisé par l'Union européenne de radiodiffusion, que l'on nomme aussi UER. Mais attention, malgré son nom et sa ressemblance, il n'y a pas de lien direct avec l'Union européenne. Depuis sa création en 1956, des artistes sélectionnés en provenance de toute l'Europe se réunissent dans le cadre d'une compétition musicale.
Quel en était l'objectif de base ? Ce n'est pas tendu entre certains pays européens après la Seconde Guerre mondiale ?
Eh bien si, et c'est justement dans cette optique que l'Eurovision a été créée. Le concours cherche à resserrer les relations culturelles entre les pays membres de cette Union européenne de la radio. En fait, le nombre de pays participants n'a cessé d'augmenter en passant de 7 à une quarantaine. Et pour rappel, parmi les 7 pays fondateurs, les 7 pays qui ont débuté le concours, 6 étaient membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc l'ancêtre de l'Union européenne. Et depuis la première diffusion de 1956, la compétition s'est transformée en un phénomène international qui attire aujourd'hui près de 200 millions de téléspectateurs.
Ah, mais donc le concours a évolué à peu près de la même manière que pour les débuts de la construction de la CECA, c'est ça ?
Oui, alors en quelque sorte, et comme l'a dit Marie-Lou, le concours a par la suite continué de s'élargir à d'autres zones. Donc par exemple, pour cette 70e édition, on compte 35 pays et on classe les participants en différentes catégories. Donc d'un côté, on retrouve les membres actifs, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la dernière édition du concours, comme la France par exemple. De l'autre côté, on a les inactifs qui n'ont pas participé à la dernière édition ou qui, comme le Maroc en 1980, ont décidé de se retirer du concours parce que l'avant-dernière place du pays lors de son unique participation n'avait pas été supportée. Et enfin, on retrouve les disparus qui ont cessé d'être présents suite à certains événements qui étaient la plupart du temps historiques.
Et est-ce qu'il y aurait une dernière catégorie ?
Alors oui, en fait, cela concerne ceux qui n'intègrent aucune des précédentes. Donc ces pays-là font partie d'une catégorie à part. Ce sont ceux tels que le Liechtenstein qui ont tenté une à plusieurs fois de participer au concours sans y être parvenus.
J'imagine que cette histoire de catégorisation est un des aspects actuels du concours. Mais qu'en est-il de ses caractéristiques passées ?
Alors, à l'origine, durant la présentation, les chorégraphies étaient interdites. Pour du coup ce qui est des règles, et seulement les artistes en solo pouvaient concourir. Ensuite, dû au nombre restreint de participants, on rappelle qu'il n'était que 7 au début, 2 chansons étaient présentées par pays, ce qui permettait de faire durer le show. Et pour ce qui est du vote, eh bien, c'est un jury international qui avait entièrement la main dessus. Donc 2 jurés par pays participants étaient sur place et pouvaient voter pour une chanson appartenant à leur propre pays. Et pour terminer, seul le gagnant était connu du public, donc la première place. Et en fait, les résultats de chaque pays n'étaient pas rendus publics, donc qu'un pays soit deuxième ou dernier, personne n'était au courant.
Mais comment se déroule habituellement le concours ?
Pour ce qui est des règles et de l'évolution d'abord, c'est surtout depuis 1957. Pour rappel, c'est l'année de la signature du traité de Rome. Et c'est là où les changements sont intervenus, avec l'apparition de pays supplémentaires dans le concours. Les pays participants ne peuvent désormais plus que représenter une seule chanson. Et pour équilibrer cela, les groupes sont maintenant acceptés. Et concernant les votes, aujourd'hui, il est interdit pour les membres des jurys internationaux et même pour le public de voter pour leur propre pays, malgré le fait qu'ils puissent énoncer leurs résultats oralement qui sont affichés pour les spectateurs. Et Justine va expliquer comment se passe le concours.
Alors donc, traditionnellement, l'Eurovision a eu lieu dans le pays de l'artiste vainqueur de l'édition précédente. Donc la 69e édition du concours a eu lieu l'an dernier en Suisse, puisque le vainqueur de l'Eurovision 2024, Nemo, était originaire du pays. Et après la victoire de l'Autrichien JJ avec sa chanson Wasted Love, le concours aura cette année lieu en Autriche les 12, 14 et 16 mai.
Il se déroule sur 3 jours.
Oui, alors oui, c'est bien ça. En fait, la compétition, elle est divisée en 3 temps. Donc, on a 2 demi-finales et 1 finale.
Et que reçoit le vainqueur comme récompense ?
Alors, en guise de récompense, on a une reconnaissance déjà internationale, ainsi qu'un trophée en verre en forme de microphone qui sont attribués au vainqueur. Et puis, s'ajoute à cela le droit d'organiser le concours dans le pays d'origine du vainqueur l'année suivante, ce qu'on peut considérer comme une plus-value pour le pays gagnant.
Mais au-delà de ça, remporter le concours garantit pour beaucoup d'artistes un succès futur, donc la reconnaissance aussi internationale. L'Eurovision a par exemple joué un rôle clé dans le lancement de la carrière du groupe Maneskin avec Didi et Boni qui avaient représenté leur chanson en 2021, Duncan Lawrence avec le titre Arcade aux Pays-Bas en 2019, mais aussi pour le fameux groupe suédois ABBA en 1974 avec sa chanson Waterloo que l'on a pu écouter en début de cette chronique.
Ah mais oui, les chansons d'ABBA ont été utilisées pour la célèbre comédie musicale Mamma Mia. Et la Suède a d'ailleurs été championne du concours avec ses 7 victoires. Allons en France maintenant. Le concours a été remporté à plusieurs reprises et pour la dernière fois par Marie-Myriam, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Marie-Myriam a gagné en 1977 avec son titre « L'oiseau et l'enfant ». Et comme tu l'as dit, c'est donc la dernière fois que la France a gagné l'Eurovision. Mais même si ces deux pays, donc la France et la Suède, ont gagné plusieurs fois, ce ne sont pas ceux qui ont participé le plus de fois. C'est l'Allemagne qui remporte ce record avec 68 participations au total.
Et pour vous, toutes ces participations incarnent-elles la devise européenne « Unie dans la diversité » ?
Oui, en effet, l'Eurovision est vue comme un porte-voix, si on peut dire, des valeurs d'inclusivité, d'égalité et d'universalité transmises par la musique européenne. Mais la présence de cette diversité pose aussi souci. Elle est la source de tensions.
Effectivement, comme exemple, on peut citer la Hongrie. En fait, le pays s'est retiré cette année du programme télévisé. Et pourquoi ? Eh bien, parce que l'ancien gouvernement hongrois, avec Viktor Orban au pouvoir, ne porte pas la communauté LGBTQI+, dans ses valeurs, contrairement au programme télévisé de l'Eurovision, qui est connu pour les mettre beaucoup en avant. Donc un autre cas aussi que l'on peut citer est celui de la Russie, qui a été critiquée et huée pour l'adoption de sa loi anti-LGBT, juste avant la victoire de la drag queen Conchita Wurst en 2014.
J'espère que les tensions liées à cette diversité vont s'arranger dans les années à venir. Mais la géopolitique peut parfois vraiment se faire ressentir dans les émissions internationales. Et est-ce le cas ici ?
Alors oui, totalement Delphine, le concours est même qualifié de miroir de conflits géopolitiques. En fait, certains pays comme l'Autriche en 1969 ont déjà décidé de se retirer du concours en raison de la participation d'une dictature. Et c'est le cas avec la dictature de Franco en Espagne. Et toujours dans cette logique, on a aussi l'île de Chypre, qui est membre de l'Union européenne depuis 2004, qui a aussi apporté ses propres problèmes avec sa géopolitique interne. On parle d'ailleurs d'elle dans la chronique datée du 22 janvier 2026.
Et que vous pouvez retrouver sur notre site europe-limousin.eu. Et pour rappel, le pays est divisé en 2 parties, une partie grecque et une partie turque. Ce pays a eu un impact justement sur la participation des autres mentionnés précédemment, donc la Grèce et la Turquie. Par exemple, la Grèce, en 1975, a décidé de se retirer du concours pour protester contre la participation turque qui avait envahi l'île chypriote. Et lors du retour de la Grèce dans l'Eurovision en 75, et l'année d'après, c'est au retour de la Grèce en 76, donc l'année d'après, que la Turquie a décidé de boycotter puisque la Grèce revenait et pour montrer une protestation, une sorte de revanche liée au même conflit. D'ailleurs, cette année, la Turquie a décidé de censurer le passage de la Grèce lors de la diffusion de l'émission.
Et ces deux pays ont-ils réussi à concourir en même temps depuis cet incident ?
Et oui, mais il a fallu attendre 1978, donc 3-4 ans après, pour qu'ils puissent participer en même temps, même si ce n'est pas le cas chaque année.
Pour cette 70e édition, j'ai récemment entendu parler d'un boycott de 5 pays, le saviez-vous ?
Alors oui, comme tu l'as dit, on a pu le voir précédemment. Donc les positions politiques et les situations humanitaires de chaque État et entre États affectent la culture européenne et c'est le cas dans l'organisation de l'Eurovision. Donc le boycott dont tu parles concerne sûrement l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Islande puisque ces pays ont décidé de boycotter l'émission cette année en raison de la participation israélienne. Donc celle-ci est liée au conflit israélo-palestinien qui avait déjà posé problème les autres années. Donc certains des cinq pays ont par ailleurs qualifié la situation de malaisante, voire d'inconcevable.
Je savais que des retraits avaient déjà eu lieu dans le passé, mais par contre, il doit être rare de voir un boycott collectif comme celui-ci.
Alors oui, tout à fait, ça illustre bien le fait que la culture européenne peut unir les pays par leur participation au concours, mais pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire au point de cautionner certaines situations d'actualité européenne.
Oui, tout cela est en plus révélé lors de la diffusion à la télévision. Et pourriez-vous me citer des avantages qui mettraient en avant une évolution de l'Union européenne ?
Oui, bien sûr. Et on peut parler des valeurs européennes qui progressent d'ailleurs sans cesse. On peut revenir sur les thèmes qu'on a abordés juste avant. Par exemple, les costumes de drag queen qui sont de plus en plus représentés, qui montrent que la liberté prend de plus en plus de place dans l'Eurovision. Et notamment l'apparition aussi de nouveaux pays qui démontrent très souvent une forme d'amitié ou une réconciliation récente, ce qui symbolise des rapprochements interculturels.
Et ce n'était pas justement le but premier de l'organisation de l'Eurovision, de créer des liens entre les pays européens.
Et si, exactement. Et comme on a pu le voir au cours de la chronique, favoriser la paix dans l'Europe avec un concours de chant européen est une bonne réalisation de projet, mais son fonctionnement et son impact dépendent largement de l'actualité européenne.
Et en tout cas, cette année, c'est Monroe et son titre Regarde qui participera en tant que représentante de la France et qui succédera donc à la chanteuse Louane et son titre Maman en 2025. Donc nous vous laissons écouter une partie de sa chanson juste après cette chronique.
Et bien voilà, la chronique touche à sa fin en espérant vous avoir donné envie de visionner l'Eurovision qui, je le rappelle, aura lieu le 12, 14 et 16 mai. Merci à toutes les deux de nous avoir éclairés sur le véritable impact du concours. On se retrouve prochainement sur une autre chronique qui abordera cette fois les actions de l'Union européenne sur l'usage des jeux vidéo en Europe avec un nouvel invité.
Et tout à fait, donc en attendant, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et à bientôt.
À bientôt.